Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.
Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle émission de Alors on change, le rendez-vous bimestriel d'Alternativa Villefranche pour penser le dérèglement climatique, ses conséquences et mettre en lumière le développement des alternatives locales. Notre émission de ce soir est consacrée aux armements et aux désarmements.
Calade, ma radio.
Depuis le commencement de la guerre en Ukraine en janvier 2022, Vladimir Poutine brandit régulièrement la menace de l'utilisation de l'arme atomique. Plus récemment, dans le conflit israélo-palestinien, la communauté internationale s'alerte sur la possibilité que les forces israéliennes bombardent des installations nucléaires militaires en Iran. Cette menace nucléaire qui pèse sur nos têtes n'est médiatisée que lors des conflits importants dans le monde et pourtant, elle est présente à chaque instant en regard du stock d'armes atomiques des 9 pays détenteurs. Qu'en est-il de ce stock d'armes nucléaires aujourd'hui, et notamment dans notre pays? Que sont devenues les tentatives de réduction des armes atomiques et d'interdiction de leur utilisation? Dans cette émission, nous nous poserons également la question des engagements de la France vis-à-vis du traité sur le commerce des armes, de son refus de signer le traité de l'interdiction des armes nucléaires, ainsi que la question du coût de ces dernières pour les contribuables. Et enfin, évidemment, nous devons nous interroger sur les impacts sur l'environnement et le climat de la production, de la maintenance et de l'utilisation des armes, qu'elles soient atomiques, chimiques, conventionnelles. Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons ce soir Patrice Bouvret, cofondateur et directeur de l'association L'Observatoire des armements. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
Alors Patrice, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter assez brièvement, puisqu'on y reviendra pendant l'émission, votre association en quelques mots, ses objectifs?
Donc l'Observatoire des armements, c'est un centre d'expertise indépendant qu'on a créé donc il y a 40 ans maintenant, en 1984, pour justement ouvrir le débat en France sur ces questions. Puisque tant les questions de l'armement nucléaire que des exportations d'armes ou même que de la production d'armement en France sont en quelque sorte confisquées par l'exécutif, sans qu'il y ait un débat public en France, alors qu'on est un pays dit démocratique et que cette question devrait être au cœur justement du vivre ensemble, elle devrait être débattue. Est-ce qu'on a besoin d'une arme nucléaire pour se défendre? Est-ce qu'il faut vendre des armes à tel ou tel pays? Ça, ça devrait faire partie du débat public. Or, ça le fait jamais.
D'accord, merci.
Est-ce que c'est bien notre rôle de vendre des armes? Oui, c'est notre rôle. Parce que si nous ne vendions pas un certain nombre de matériel, le risque, c'est que d'autres le fassent à notre place.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques.
Bienvenue à Eurosatory, le plus grand salon de l'armement au monde, qui s'est ouvert ce lundi près de Paris. Cette année, l'exposition connaît une affluence record.
Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte.
Nos exportations d'armes font donc vivre quelques 165 000 salariés en France, un commerce de quelques 17 milliards d'euros.
Nous marchons sur deux jambes, la défense de notre pays et la défense de notre économie. Et pour cela, il faut continuer à exporter.
En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m.
Sur les 10 dernières années, la France a exporté pour 207,6 millions d'euros d'armes à Israël.
La France n'en livre pas.
Les armes françaises ont-elles tué des civils au Yémen?
Les robots mettraient en péril le droit international.
Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement.
Nous assumons une certaine ambiguïté stratégique. Nous ne disons pas tout, nous ne fixons pas de ligne rouge par avance et nous ne disons pas ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas.
Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. Boum ! Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.
Alors, Patrice, tout d'abord, j'aimerais vous interroger sur le traité sur le commerce des armes, sur la position de la France et de l'Union européenne vis-à-vis de celui-ci. Le traité sur le commerce des armes, c'est un traité de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU, sur le commerce international des armements conventionnels. Il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 avril 2013, à la suite de sa signature par 130 États, et est entré en vigueur en 2014. En décembre 2022, 113 États avaient ratifié ce traité sur le commerce des armes. Vous avez publié un fascicule intitulé « Agir pour désarmer », dans lequel vous dites que la France ne respecte pas ce traité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet ?
Tout à fait. Effectivement, la France ne respecte pas l'esprit vraiment du traité. Alors, pour revenir sur le traité, ce traité est né de la société civile, est né de campagnes menées par les organisations au niveau international, bon, dont l'Observatoire, mais Amnesty, les campagnes sur les droits humains, etc., qui est développement aussi, qui participaient. Mais les limites du fonctionnement de l'ONU fait qu'en fait, au final, on demande aux États de s'auto-contrôler. Donc le principe du traité, c'est qu'il y a une liste de critères qui ont été mis en place que les États doivent respecter avant de vendre des armes. Notamment que ces armes ne viennent pas alimenter les conflits régionaux, ne viennent pas permettre de commettre des atteintes aux droits humains, pour prendre les termes génériques. Mais il n'y a pas d'instance internationale chargée de vérifier si les États appliquent vraiment ce traité, et donc de les sanctionner par derrière. Donc c'est les États eux-mêmes qui s'autocontrôlent. Ben, voilà, c'est ça la limite de ce traité.
Parce que vous auriez des exemples de critères non respectés actuellement par la France, où elle-même juge qu'elle les respecte, mais en réalité elle ne les respecte pas.
Toutes les ventes d'armes qui ont eu lieu à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, qui sont parmi les principaux acheteurs d'armes françaises, on voit qu'ils les utilisent dans la guerre au Yémen. Les armes qui sont vendues, alors à Israël, ce n'est pas des armes terminées, mais c'est des composants qui rentrent dans des armes qui sont vendues. C'est pareil. On voit l'usage qu'il en fait à Gaza.
Oui.
Donc, voilà, des exemples. La France a à peu près une centaine de pays auxquels elle vend des armes. Donc, c'est-à-dire plus de la moitié des pays de la planète. On pourrait prendre tous les pays. Si les gens achètent des armes, enfin, si les États achètent des armes, ce n'est pas vraiment des individus, c'est bien parce qu'ils estiment en avoir besoin.
Oui. Et alors, la position de l'Union européenne vis-à-vis de ce traité sur le commerce des armes, elle est différente de celle de la France ?
Non, l'Union européenne a même précédé la communauté internationale pour établir ses critères. Et c'est effectivement sur les critères de l'Union européenne que c'est bâti le traité international. Ça s'est fait dans les deux temps. C'est après les années 90 où il y a eu, ce qu'on sait, la guerre contre l'Irak, qu'il y a eu un questionnement, notamment au niveau de l'Union européenne, lié à des mouvements aussi de citoyens, bien évidemment, qu'on avait vendu, on avait surarmé l'Irak, et après on avait envoyé nos propres soldats pour combattre et qui se retrouvaient face aux armes qu'on avait vendues. C'est né de ça. La réglementation de l'Union européenne sur les exportations d'armes et le traité aussi sur le commerce des armes dans la foulée. C'est parti de cette idée-là qu'il fallait réglementer. Pour les citoyens, c'est réglementé pour réduire le risque pour les populations. Mais pour les États, c'était éviter de se trouver en porte-à-faux, en gros, en armant un État qui après allait les retourner contre nous. Les objectifs étaient contradictoires, mais la communauté internationale, au niveau des prises de décision, c'est les États, à un moment donné, qui prennent les décisions et qui adoptent des textes. Ce n'est pas les citoyens.
D'accord. Et alors, en parlant de citoyens, l'Observatoire des armements, quelles actions, en fait, il mène pour obtenir de la France qu'elle respecte ses engagements dans le cadre de ce traité et de la position commune de l'Union européenne ?
Le travail principal de l'Observatoire, mais qu'on ne fait jamais seul, qu'on fait toujours en campagne avec d'autres organisations comme Amnesty ou Oxfam, ou enfin, d'autres organisations, même au niveau local, c'est d'abord d'avoir de la transparence. Le premier travail, c'était ça, parce qu'aujourd'hui, on a un rapport annuel depuis une vingtaine d'années qui donne les détails en montant financier, pas en type d'armes vendues, alors que c'est ça qui est important par rapport à l'usage qui peut en être fait, mais qui donne un montant financier. On n'avait pas ça il y a avant 20 ans. On avait le ministère de la Défense donnait une fois par an 4 pages pour dire on a vendu pour X millions de francs à l'époque et ça se répartit en gros entre le Moyen-Orient à tel pourcentage l'Afrique, etc. Maintenant, on a pays par pays. Donc, ce qui permet quand même d'avoir un travail après plus ciblé de plaidoyer auprès des parlementaires pour essayer qu'ils interpellent le gouvernement.
Donc une première action qui consiste à obtenir déjà la transparence sur ces ventes d'armes. Voilà. Et ensuite.
Et après, c'est un travail de plaidoyer, j'ai envie de dire, que font beaucoup d'organisations, chacun dans leur domaine, de s'emparer des faits, de pouvoir s'appuyer sur des faits. Pourquoi on a vendu tant de millions d'armes à tel pays ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est des armes dites défensives, des armes offensives, des munitions, enfin, des bombes tel type, de façon à pouvoir interpeller le gouvernement et surtout pousser les parlementaires à s'emparer du sujet. Parce que jusqu'à présent, les parlementaires n'avaient pas voix directement au chapitre sur ces questions-là. Depuis donc l'année dernière, même 2023, puisqu'on en... Oui, en 2025 maintenant, depuis 2 ans, il y a une loi qui a pu être votée grâce justement à la pression citoyenne, qui fait qu'il y a une commission qui a été mise en place au niveau du Parlement, donc Sénat, Assemblée nationale, qui est chargée de vérifier, de contrôler les exportations d'armes, avec les limites, là encore, ça nécessitera encore pas mal de campagnes pour arriver, on est toujours sur des temps longs sur ces questions-là, parce qu'elle son contrôle, c'est a posteriori. Elle n'a pas encore voix au chapitre, comme dans d'autres pays, en Europe notamment, ou même aux États-Unis, où les parlementaires doivent discuter avant de tel contrat ou tel contrat. Nous, ça sera après. Mais c'est déjà un premier pas qui a été obtenu.
D'accord, merci beaucoup. Donc on a parlé de ça. Il existe aussi un autre traité auquel la France n'adhère pas, c'est le TIAN, autrement dit le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. L'entrée en vigueur le 22 janvier 2021 de ce TIAN, traité sur l'interdiction des armes nucléaires, marque une nouvelle étape fondamentale vers l'élimination des armes atomiques. Les armes nucléaires sont désormais illégales au regard du droit international. La France devient donc une délinquante au regard du droit international, comme les 8 autres puissances nucléaires et les 32 autres États qui sont sous le parapluie nucléaire, face aux 156 États qui, eux, excluent ces armes de leur politique de sécurité. 19 associations et organisations, dont l'Observatoire des armements dont vous êtes responsable, ont lancé un appel solennel au président de la République pour que la France adhère à ce TIAN, à ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Est-ce que, Patrice, vous pouvez nous en dire plus un peu sur ce TIAN et sur la position de la France au sujet de ce traité ?
Oui, tout à fait. Là encore, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires est né d'une initiative citoyenne au niveau international, bien sûr, hein, pas uniquement en France, d'une campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que l'ONU est créée, il y a toujours eu une volonté par un certain nombre d'États d'interdire ces armes nucléaires. Là, ce qu'on a oublié, la première résolution de la première Assemblée générale de l'ONU, c'était pour créer un groupe de travail pour abolir les armes nucléaires. Il a fallu attendre donc 2017 pour que la communauté internationale adopte un traité qui interdit ces armes, parce que jusqu'à présent, elles étaient inutilisables d'un point de vue du droit international, c'est-à-dire les conventions de Genève, puisque pour différentes raisons qu'on pourrait rentrer dedans, mais qui se prêtent un peu long, mais elles n'étaient pas illégales. Certains pays avaient le droit de l'avoir. Pour ça, il y avait eu, avant le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TNP, donc traité sur la non-prolifération, où les puissances nucléaires vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale s'étaient octroyé le droit d'avoir ces armes-là, tout en interdisant aux autres États d'avoir ces armes. En échange, ils avaient donc pris l'engagement de faciliter l'accès au nucléaire civil pour ces États-là. Donc là, on voit le lien aussi entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Et surtout, ces États-là, c'était les cinq puissances, donc membres permanents du Conseil de sécurité, donc États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni, s'étaient engagés, à travers un article du TNP, l'article 6, à négocier un traité de désarmement nucléaire. Ce TNP a été adopté en 1970. Donc, les associations de la communauté internationale se sont battues pendant des années pour essayer de faire respecter cet engagement pris par les puissances nucléaires. On n'y est pas arrivé. Donc, on a inversé le problème. Puisque l'ONU fonctionne un État, une voix, on s'est adressé à tous ceux qui avaient respecté leur part de marché, c'est-à-dire n'avaient pas accédé à l'arme nucléaire. Alors que dans les années 70, il y avait une trentaine d'États qui le voulaient. Donc, on s'est adressé à tous ces États pour leur dire, de toute façon, s'il y a une guerre nucléaire, où que vous soyez sur la planète, vous en subirez les conséquences, à différents niveaux, environnemental, au niveau de conséquences sanitaires, etc. Il y aura un hiver nucléaire, enfin bon, ça peut aller jusqu'à la fin de la vie sur Terre. Donc, tout le monde est concerné. Donc, vous êtes majoritaire au sein de l'ONU, emparez-vous du sujet, rendez ces armes illégales, et ça fera une pression supplémentaire sur les puissances nucléaires pour obtenir l'abolition de cette arme. Mmh. Et c'est vraiment cette logique-là dans laquelle on est, et que bien évidemment, les puissances nucléaires refusent. Quand s'est ouvert les négociations sur le traité, pour la première fois, il y avait des représentants diplomatiques devant la salle à l'ONU, on les a vus, il y avait des gens de la société civile, pour essayer de dissuader les États de rentrer dans la salle pour entamer les négociations. Sur aucun autre traité, ça ne s'est jamais vu. Et des pressions, elles ont continué. Alors, bien sûr, les États qui veulent défendre leurs intérêts font toujours des pressions sur d'autres États. Mais en matière d'armes nucléaires, c'est vraiment des pressions importantes qui ont été faites sur les États pour qu'ils ne rentrent pas dans cette problématique-là.
Donc la France n'a pas signé ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires, ne souhaite pas le signer, fait pression sur les États qui sont favorables à ce traité. Que peut faire la société civile et notamment l'Observatoire des armements pour faire pression sur le gouvernement français afin qu'il signe ?
La première chose, c'est justement d'en débattre, parce qu'on n'en débat jamais. Mmh. On a oublié, ça ne fait pas partie du débat. On élit le président au suffrage universel depuis 1962 par une volonté de Gaulle, il y avait d'autres aspects, mais c'était une volonté majeure, pour que le président de la République ait la légitimité d'appuyer sur le bouton. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on met notre bulletin de vote pour un président de la République, on lui délègue, chacun de nous, on lui délègue le pouvoir d'exterminer l'équivalent de la France ailleurs dans le monde. Parce que c'est comme ça qu'a été proportionnée l'arme nucléaire. Faire 60 millions de morts ailleurs. D'accord. Donc en Russie ou en Chine. Parce que bon, on peut, après, théoriquement, c'est tout azimut. Mais bon, on sait vers qui c'est destiné. Et donc, chaque fois, on lui donne ce pouvoir-là. Donc ça devrait être un sujet majeur. Parce que c'est un pouvoir exorbitant qui est confié à un seul homme. Et ça peut être que confié à un seul homme. Il faut 5 minutes pour se décider pour riposter. Sinon, c'est trop tard. La France est anéantie avant. Donc, c'est un pouvoir exorbitant. Et on n'en débat jamais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vraiment d'en débattre, faire pression sur nos parlementaires, avoir ce souci-là quand on vote, quand on élit, quand on met nos bulletins dans les urnes, pour les législatives comme pour les présidentielles, de ce pouvoir-là, et de confier notre pouvoir déjà à quelqu'un qui s'est prononcé contre ces armes, ou en tout cas en faveur de la mise en place du désarmement nucléaire. On sait bien que ça ne se fera pas du jour au lendemain, il faudra du temps, mais il faut qu'il y ait cette volonté-là qui soit manifestée pour pouvoir renverser cette problématique-là et aller vers un monde sans armes nucléaires, d'accord, qui est réclamé par tout le monde.
Oui. Alors, vous faites aussi partie, Patrice, d'un autre comité qui s'appelle le comité d'animation de l'ICAN. C'est la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2007. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ICAN, de ses objectifs, de son action, son influence sur les États détenteurs de l'arme atomique ?
Ah ben, à ICAN, c'est donc une campagne qui a été lancée en 2007. Elle a eu le prix Nobel en 2017 en même temps que l'adoption du traité. Donc, c'est-à-dire, il a fallu 10 ans entre le début de la campagne et d'aboutir ce résultat au niveau international. Son objectif est très clair. C'est abolir les armes nucléaires. C'est campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Il y a des branches un peu dans les différents pays, dans une centaine de pays. En France, la branche est animée en partie et largement par l'Observatoire des armements. Ils sont d'ailleurs dans nos locaux. Enfin, ICAN est dans les locaux pour la France. Et c'est bien évidemment, maintenant que le traité a été adopté, c'est de faire en sorte que la France, pour ICAN France, rentre dans cette logique de désarmement nucléaire. Donc ça après un travail d'information, de travail dans les médias, travail auprès des parlementaires, travail d'interpellation du gouvernement pour aller vers cet objectif-là, que la France s'engage à participer au traité en lui-même, puisque maintenant il n'est plus à négocier, mais il y a des réunions régulièrement des États parties du traité. Et donc déjà, la France, comme premier pas, pourrait participer comme observateur. D'autres pays, notamment l'Allemagne, par exemple, le fait. Ils vont observateur pour discuter avec les autres États. Pourquoi ils ne veulent pas des armes nucléaires? Déjà, d'avoir cet échange et pas de se camper dans « nous, on a nos armes » et dégager, il n'y a pas à discuter. Ce que fait la France. Elle est perçue comme arrogante par rapport à ces questions-là.
Et d'ailleurs, il y a 9 pays détenteurs de l'arme atomique, ou 8, je ne sais plus. Est-ce que, d'un point de vue démocratique, les choses sont traitées de la même manière dans tous ces pays, ou est-ce que la France fait figure d'exception avec le peu de démocratie autour du sujet ?
Il y a 9 pays, effectivement, qui ont l'arme nucléaire en propre. Et il y a 5 autres États qui abritent des armes nucléaires, essentiellement américaines et un russe, la Biélorussie. Donc, par rapport à l'arme nucléaire, je crois que dans les échanges qu'on peut avoir avec les autres partenaires de cette campagne, tous les États ont cette position extrêmement difficile, enfin extrêmement dure de refus, de négociation. Ils négocient entre eux. Oui. Bien sûr, les 5 puissances membres permanents du Conseil de sécurité ont des réunions entre eux, par exemple, sur cette question, alors qu'ils n'arrivent pas, soi-disant, à discuter avec la Russie. Sur les armes nucléaires, ils y arrivent. Mais par rapport à la société civile ou au reste, c'est exactement la même chose que la France.
Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais. Sous le joyeux soleil de mer, chemin faisant j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent,
les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mer. Mon Dieu, faites que ce soir un mauvais rêve, réveillez-moi, réveillez-moi.
Calade, ma radio.
C'était Claude Nougaro, il y avait une ville. On a parlé nucléaire, parlons maintenant du coût de l'armement. La France est le principal acteur européen de la course aux armements. Notre pays consacre de plus en plus d'argent à ses armes nucléaires, alors que la plupart des ministères, notamment celui de la transition écologique, ont été priés de se serrer la ceinture. L'enveloppe consacrée aux armes nucléaires a grossi de 25% entre 2019 et 2024. En 2023, les 9 États détenteurs de la bombe ont ainsi dépensé 91,4 milliards de dollars pour leur arsenal. Où se situe la France dans cette course aux armements ?
On a du mal à le savoir de manière précise. C'est quelque chose qui peut paraître incroyable, mais les parlementaires, ils votent tous les ans le budget militaire de la France, on n'a pas la part précise consacrée aux armes nucléaires. On a voté donc récemment, en 2023, ce qu'on appelle une loi de programmation militaire, pareille, qui prévoit les dépenses sur les 7 années suivantes, de 2024 à 2030. Dans les projets de loi, dans tous les textes, il y avait un document de plus de centaines de pages, il n'y avait pas de montant par rapport aux armes nucléaires. Et depuis le début, tout a été fait pour qu'on ne sache pas de manière précise. Alors, il y a des estimations qui sont faites, il y a des pourcentages qui sont donnés, mais...
Ça donne quoi en gros,
actuellement, la France dépense entre 6 et 7 milliards d'euros rien que pour les armes nucléaires. Mais c'est pour la fabrication des armes. Ça ne comprend pas, par exemple, le personnel militaire consacré aux armes nucléaires, toutes les installations qui sont dans les frais de fonctionnement de l'armée, mais dont on ne connaît pas le nombre précis qui travaille pour le nucléaire, donc pour pouvoir faire ne serait-ce que des péréquations
par rapport à ça.
Après, ça ne comprend pas... Oui, tout ce qui est mélangé entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, et notamment la question des déchets, on sait simplement que 10%, 9, et quelques pourcents des déchets nucléaires de la France sont liés à la défense, donc au militaire, donc au nucléaire militaire. Ça ne comprend pas les essais, enfin les déchets accumulés au Sahara pour les essais, ou surtout en Polynésie, ça ne les comprend pas. Mais déjà, rien que ça, c'est 9%. Donc c'est énorme par rapport au coût. Mais les déchets nucléaires, c'est géré par le civil. Et plein d'autres exemples comme ça. Et bien sûr, on ne parle pas s'il y a un accident. Parce que là, les coûts sont...
C'est quoi d'ailleurs les liens entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire ?
Les liens, ils sont vraiment à plein de niveaux. Alors, on pourrait reprendre pour l'éclairer. C'est la déclaration de Macron qu'il avait été au Creusot, où il a affirmé, donc c'était au Creusot, donc fief où se fabrique une partie du nucléaire, civil, mais aussi un peu militaire, les cuves notamment. Il n'y a pas de nucléaire militaire sans nucléaire civil. Il n'y a pas de nucléaire civil sans nucléaire militaire. Ça, c'est la déclaration. Et effectivement, ça se joue à plein de niveaux. L'exemple le plus récent, la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique, donc ceux qui sont en charge du programme nucléaire militaire, a passé un contrat avec EDF récemment pour pouvoir fabriquer du tritium. Le tritium est un des rares éléments nucléaires qui a une durée de vie relativement courte, de seulement 12 ans, donc qui est nécessaire à changer régulièrement dans les bombes. Et donc, ils ont passé un contrat avec EDF, avec la centrale de Civaux nucléaire, qui va permettre, à travers une installation qui va être mise, que EDF fournisse ce tritium à l'armée pour les bombes. Mmh. Voilà, pour donner un dernier exemple, un exemple récent. Et après, c'est au niveau du savoir-faire, au niveau des infrastructures. Enfin, les deux filières, bien sûr, sont relativement séparées. Mais le savoir-faire, il est commun. Et ça nécessite des formations, des gens. Ça, c'est commun, bien évidemment.
D'accord. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. Quand il y a autant d'argent en jeu, on peut se demander à qui ça profite. Du côté des banques, on voit bien qu'il n'y a pas que les énergies fossiles qui font recette. D'après l'ICAN, donc la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, les banques françaises ont investi près de 30 milliards d'euros dans les entreprises productrices d'armes nucléaires entre janvier 2021 et août 2023. On sait qui sont les banques. Et est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec le TIAN, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires ?
Il n'y a pas de paradoxe dans le sens où la France, enfin sur la lettre, enfin c'est au niveau juridique, dans la mesure où la France n'a pas rejoint le traité. Donc elle n'est pas engagée par l'arrêt des financements que prévoit le traité d'interdiction et donc de soutien à l'industrie. Mais dans la pratique, bien évidemment, dans l'esprit, elle l'est. Et là où on peut retrouver des ambiguïtés dans la position des banques françaises, l'essentiel des banques françaises, BNP, Société Générale, le CIC, Crédit Mutuel, même à travers le groupe complet du Crédit Mutuel, participent à différents niveaux à financer l'industrie d'armement. Bien sûr, l'arme nucléaire est financée d'abord, il ne faut pas l'oublier, par nos impôts. Mais pour la construire, pour le quotidien du fonctionnement de l'industrie d'armement, elle a besoin de prêts, elle a besoin d'argent liquide, enfin, etc., de trésorerie, d'investissement. Et c'est à travers ça que les institutions financières utilisent notre argent pour faciliter la production d'armes nucléaires. Et là, ça nous offre surtout à chacun de nous, citoyens, un pouvoir supplémentaire. Je vous ai parlé tout à l'heure du bulletin de vote, oui. Mais il y a aussi notre compte en banque. On peut aussi s'adresser à notre banque et lui dire « L'argent que je mets sur mon compte, je ne veux pas qu'il serve à financer de l'arme nucléaire. »
Ou se diriger vers des banques plus éthiques.
Oui, soit vous me garantissez que vous arrêtez de financer l'arme nucléaire, soit je vais ailleurs. Et ça aussi, c'est un pouvoir qu'on doit exercer par rapport
au niveau de chaque citoyen, oui, bien sûr.
Chaque citoyen, parce que ça, c'est en tant que, effectivement, les banques, ça les dérange. Elles ont besoin de notre argent pour faire ce qu'elles veulent, pour les matières, pour les questions énergie fossile, comme pour l'arme nucléaire.
D'accord, donc on voit bien qu'on investit à tout va pour faire des guerres, mais le problème avant tout, c'est qu'on ne cherche pas à les prévenir. On voit bien que les causes des conflits, comme le dérèglement climatique, elles ne sont pas traitées, elles ne sont pas intégrées dans les budgets des États. Or, on le sait, les liens entre les crises environnementales et les conflits sont de plus en plus étroits. L'accès aux ressources naturelles qui se raréfient, l'eau, l'accès aux ressources qui permettent de produire de l'énergie, de contribuer à la vie sur Terre, tout ça, c'est générateur d'instabilité, de guerre, et ne pas le traiter en amont, effectivement, c'est quand même un problème de ne pas y accorder les budgets nécessaires. Ne parlons pas du déni de démocratie, on l'a fait tout à l'heure sur ces sujets. Le budget de la défense est adopté chaque année sans véritable débat, ni à l'Assemblée nationale, ni dans la société civile, dans les universités, les associations, les centres de recherche. Voilà, donc tout ça n'est pas très très réjouissant. Et alors maintenant, on va parler du sujet des déchets nucléaires et de leur impact sur l'environnement. L'ICAN, là, toujours, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, a publié récemment une plaquette qui s'appelle « Les déchets nucléaires de la bombe atomique française ». Donc pour nos auditeurs, les références seront sur la page de l'émission du site Calade Radio. Alors d'abord, pourquoi des déchets nucléaires? En quelle quantité? Est-ce que les chiffres sont publics? Où sont stockés ces déchets?
Alors déjà, une première précision, ce n'est pas seulement ICAN, c'est l'Observatoire des armements. D'accord. Et ICAN, donc, qui avons fait ce travail-là de recherche. Nous, au niveau de l'Observatoire, le premier travail sur les déchets nucléaires militaires date des années, milieu des années 90, où on avait commencé à alerter sur cette question-là. Alors, il y a des chiffres qui sont donnés, donc maintenant, sur les déchets nucléaires globaux. Il y a un rapport annuel qui est publié, il y a des éléments qui sont donnés, mais quand on creuse d'une année sur l'autre, les différents rapports, quand on essaye de voir vraiment d'en rentrer dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a des erreurs dans les chiffres qui sont donnés. Il y a beaucoup d'oubli, surtout, notamment parce qu'on appelle des chaînes nucléaires uniquement des matières qui ne peuvent pas être valorisées. Et donc, une manière pour l'industrie nucléaire d'éviter d'avoir des stocks de déchets trop importants, et ça se joue beaucoup sur le militaire notamment, c'est que c'est des matières qui peuvent être réutilisées. Ils les déclarent comme matières pouvant être utilisées et du coup ne sont pas considérées comme déchets. Si bien que pour le militaire, à Val-Duc, donc pas très loin dans la région, donc à côté de Dijon, là où sont fabriquées les bombes, on a des stocks de matières nucléaires, plutonium, uranium, pour faire des bombes pendant des centaines d'années, mais qui ne sont pas considérées comme des déchets. C'est considéré comme des matières qu'un jour, on peut les utiliser. Et chaque fois qu'on renouvelle les générations de bombes, puisque bon, comme pour les voitures ou comme pour n'importe quoi, il y a des phénomènes d'amélioration, on récupère les matières nucléaires et on les nettoie, entre guillemets, et on les réinjecte dans les nouvelles bombes. Donc, on peut à l'infini. Et là-dessus, effectivement, il n'y a pas de débat sur ces matières-là et sur leur impact sur l'environnement. Je vous ai évoqué la question du tritium et l'accord entre EDF et le CEA. Le tritium, c'est une matière volatile qui rentre dans la nappe phréatique. Si vous allez le mesurer autour de la région de Val-Duc, on est des taux qui dépassent les recommandations du gouvernement, sans que ça pose problème, sans que ça pose débat. Et c'est ça l'impact sur l'environnement. C'est pas simplement quand il y a une utilisation, quand il y a une guerre qui a un impact sur l'environnement. Mais déjà la préparation du matériel militaire, les tests...
On fait des essais, oui, encore.
On ne fait pas des essais en grandeur nature. On ne fait plus des essais en grandeur nature, mais on fait des essais par simulation qui utilisent un peu de matière radioactive.
D'accord. Donc si j'ai bien compris, le nucléaire militaire, tout comme le civil, produit des déchets dont la nocivité peut aller de quelques jours à des milliers d'années. On fait face en fait à un problème de gestion d'une pollution radioactive qui est réalisée volontairement et dont les générations futures hériteront des conséquences.
La décision des États-Unis de permettre à l'Ukraine de lancer des armes américaines plus profondément en Russie n'a pas augmenté le risque d'une attaque nucléaire. Cependant, la Russie est susceptible d'élargir une campagne de sabotage.
Nous sommes en guerre.
Il faut dire la vérité aux Français. La guerre n'est pas impossible. Et d'une manière ou d'une autre, il faut s'y préparer.
Boum ! Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille.
Nous sommes prêts à utiliser des armes, n'importe quelle arme, y compris les armes nucléaires.
La dissuasion, c'est fait pour faire peur et ne pas être utilisée.
La dialectique nucléaire, c'est de l'inconnu.
Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum.
Netanyahou dans une séquence où, selon lui, il faut absolument qu'il aille jusqu'au bout.
Boum !
La guerre à Gaza a causé des dommages catastrophiques à l'environnement.
Des armées engagées pour l'environnement, ce n'est ni une fiction, ni une contrainte. C'est une nécessité qui rejoint nos intérêts opérationnels et qui nous maintient en phase avec la société dans laquelle nous évoluons. Et c'est aussi, indirectement, un enjeu de recrutement.
Les chercheurs britanniques avaient évalué en 2022 des émissions de tout le secteur militaire mondial. C'est entre 3,3 et 7 % des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre.
Boum, boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage.
Une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants.
Ne laissez pas ces enfants mourir.
Non, je sais.
Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre.
Vous avez quand même
Arrêtez.
La possibilité de dire non.
Alors Patrice, une dernière question autour de ce qui se passe dans notre région, notre belle région Aura. Alors en France, et notamment dans notre région, on voit que des entreprises travaillent pour l'armement. C'est le cas par exemple d'Exel et de Delair. Et selon votre dernière recherche publiée en novembre 2024 dans la Dépêche du Midi, ces deux entreprises, leaders dans les drones, auraient transféré en 2024 des technologies au Kazakhstan, un régime autoritaire toujours proche de la Russie. Et très récemment, vous avez aussi révélé qu'une entreprise française située à Villefranche, il me semble, vend des composants électroniques à la Chine pour la fabrication de matériel militaire que la Chine vend elle-même à la Russie. Que sait-on de ces entreprises et pouvez-vous nous parler de votre réseau de manière générale de surveillance des entreprises françaises d'armement ? En quoi ça consiste ?
Oui, donc ce qu'on a mis en place ces dernières années, de ne pas travailler seulement à travers les grosses entreprises qu'on connaît, qu'on appelle c'est des assembliers, qui assemblent des matériels venant de différents endroits, mais de descendre un petit peu à des niveaux plus proches, de voir dans chaque endroit quelles sont les usines qui fabriquent les différents composants qui vont après aboutir dans des armes, et donc de voir comment on peut interpeller les gens qui travaillent dans ces entreprises, les syndicats, aussi, et aussi les élus locaux qui favorisent l'implantation de ce type d'entreprise dans leur région, puisque la région, notamment Auvergne-Rhône-Alpes, aide certaines entreprises pour qu'elles s'installent, sous l'idée que ça fait des emplois. Mais quels emplois, à quel prix, ça, c'est jamais débattu. Et il y aurait, surtout que là-dessus, sur l'aspect économique des ventes d'armes, il y aurait vraiment beaucoup à dire. Ça ne représente pas autant que c'est mis en avant. Mais donc là, notre travail, c'est vraiment d'essayer de détecter les différentes entreprises qui apportent un composant qui peut être civil ou militaire, puisque maintenant, l'innovation dans le matériel militaire ne provient plus seulement du militaire par les crédits de recherche qui sont déversés sur les entreprises, mais provient aussi du civil que le militaire après récupère. Donc c'est pour ça qu'on veut revenir auprès de ces entreprises-là, qui sont beaucoup dans le domaine de l'électronique, parce que sans l'électronique, la guerre, elle se fait plus seulement avec des fusils comme avant. Elle se fait énormément avec l'électronique, et c'est d'essayer d'intervenir là pour réduire cet impact-là, pour que les gens se posent la question. Je veux bien, si on travaille dans tel endroit, quelle est la finalité de mon boulot ? C'est pas simplement de gagner de l'argent, c'est d'en voir les objectifs. Et ça, il faut qu'il y ait un débat dans la société. Qu'est-ce qu'on veut ? Effectivement, on veut être riche, peut-être, mais à quel prix ? Au prix de quelle prédation ? Auprès de qui ? De quelle population, etc. C'est tout ce débat-là qu'on essaye de mener à travers le réseau de surveillance qui a démarré dans la région Rhône-Alpes, qui s'est étendu autour de Toulouse, autour de Bordeaux, autour de Paris aussi, qui est en train de se mettre en place, de façon à se réapproprier le débat à notre chacun à son niveau.
Eh bien, merci d'alerter les citoyens sur ces sujets. En 2023, l'ensemble des dépenses mondiales militaires était évalué à 2 400 milliards de dollars, avec la France qui était un des acteurs clés de la militarisation mondiale. Le programme français d'équipement des forces représente à lui seul 10 milliards d'euros pour réaliser des commandes d'armement conventionnelles et non conventionnelles. Donc, vous l'avez dit, l'économie française repose en partie sur une économie de guerre qui emploie plus de 2 millions de salariés. Mais ces millions d'emplois ne seraient-ils pas plus bénéfiques dans d'autres secteurs, notamment celui de la transition écologique ou de la santé ? On peut s'interroger sur la réalité des bénéfices, entre guillemets, de cette économie de l'armement, si on compare les dépenses militaires en plus au coût des emplois occupés, coût de subvention à outrance, contrats surestimés, etc., et aux désastreuses conséquences, évidemment, sur l'environnement, le climat, les populations, à l'occasion des guerres. José Toda, le deuxième président de la Soka Gakkai, c'est un mouvement bouddhique qui est né au Japon, a fait une déclaration historique le 8 septembre 1957 pour l'abolition des armes nucléaires. Bien qu'un mouvement d'interdiction des armes nucléaires ait émergé dans le monde entier, je souhaite aller plus loin et attaquer le problème à la racine. Je veux exposer et arracher les griffes qui se cachent dans les profondeurs de ces armes. Je tiens à déclarer que quiconque s'aventure à utiliser des armes nucléaires, indépendamment de sa nationalité ou de la victoire ou de la défaite de son pays, devrait être condamné sans exception. Pourquoi dis-je cela ? Parce que nous, les citoyens du monde, avons le droit inviolable de vivre. Quiconque met en péril ce droit est un monstre.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Voilà, c'était la magnifique et indémodable chanson de John Lennon, Imagine. Et maintenant, place à nos deux nouvelles chroniques, le coin lecture des marais et les nouvelles du port de Bordelans à Anse.
Calade, ma radio.
Alors, bonjour à tous. Et dans le cadre, effectivement, des armes, du désarmement, moi, je voulais mettre en avant une collection de Muriel Zach, qu'on connaît plutôt bien dans la région, et qui est à l'origine d'une collection qui s'appelle « Ceux qui ont dit non ». C'est une collection qui est à la fois pour les ados, mais qui, évidemment, peut être lue par les adultes. Et il y a, évidemment, toute une série de thématiques. Et donc, moi, j'ai mis en avant la thématique et le titre qui est « Non à la guerre ». « Non à la guerre », c'est avec la figure très emblématique de Jean Jaurès. Et c'est écrit par Didier Deninck. Alors Didier Deninck, c'est un historien qui a beaucoup écrit sur la décolonisation et évidemment sur le désarmement. Jean Jaurès, juste avant la Première Guerre mondiale, est un député fondateur de l'Humanité qui va être très très présent pour la paix et évidemment à l'approche de la guerre et encore plus aux prémices et à la déclaration de guerre en 14, va appeler à la grève générale contre la mobilisation, contre la guerre. Évidemment, il l'a payé de sa vie puisqu'il a été assassiné. Et donc, à travers ce livre qui va se mettre en place un petit peu comme un petit roman, où on explique un petit peu Jaurès, son action, sa vie dans ces moments de très très forte intensité où il déclare la grève générale, alors qu'évidemment il est très peu suivi au niveau de l'opinion. Donc ça nous permet de le suivre. C'est des petits romans qui font une centaine de pages. Et à la fin de ce titre, il y a un petit dossier pédagogique pour essayer de mieux comprendre effectivement quelque part cette guerre, hein, ce qu'elle a entraîné, puisqu'on aurait bien aimé que Jaurès ait raison, vu le carnage que ça a provoqué, et puis je dirais plus le carnage presque du siècle, parce que ça a été dramatique. Donc c'est une collection qui est très intéressante, beaucoup pour les ados, que j'encourage beaucoup à lire. Du coup, les enseignants qui ne connaissent pas, ben, c'est le moment de s'en emparer. Et puis hein, tout un chacun, parce qu'on apprend toujours beaucoup de choses. Donc celui-ci, c'est « Non à la guerre » avec Jean Jaurès et par Didier Deninck. Mais je peux également citer le « Non à la peine de mort » de Victor Hugo. Et là, du coup, c'est par Muriel Zach elle-même. Et en ce mois de janvier, je veux juste rajouter le dernier tract de Gallimard. Gallimard fait un tract très très bien fait sur des points d'actualité, des points intellectuels. Et là, c'est « Tenir la ligne », 40 dessins pour Charlie.
Les actualités du port de plaisance dense. Depuis décembre, quoi de neuf sur ce méga projet de port de plaisance du Bordelan à Ans? Vous savez, ce projet d'artificialisation d'une zone naturelle humide de 20 hectares en bord de Saône, à proximité de la zone de baignade gratuite du Colombier à Ans. Ce projet de plus de 39 millions d'euros d'argent public pour un port de plaisance fluvial de 350 anneaux, un des plus grands de France. Les associations, dont Alternatiba, qui lutte contre ce projet, ne restent pas inactives. En fin d'année, nous avions demandé par courrier au maire d'Anse, M. Pommeret, et à la Serle, quelles étaient les conclusions de la concertation publique de juin 2024. La réponse ? Eh bien, il faudra patienter. En effet, le résultat sera annexé au nouveau dossier d'autorisation environnementale, qui sera lui-même déposé au printemps 2025. Les temps d'instruction de dossiers sont décidément bien longs. Le nouveau dossier d'autorisation environnementale devrait donc germer au printemps. Au moment de ce dépôt, il y aura deux réunions publiques, une en début de procédure et une en clôture, ce qui correspond à la procédure d'enquête publique. Nous vous tiendrons au courant car nul doute que nous aurons besoin de vous à ce moment-là. Nous continuons donc nos actions d'information auprès des habitants d'Anse qui, nous le constatons à chaque fois, ne sont pas informés ou pensent que ce vieux dossier est enterré. En décembre, nous avons mené une action de tractage au marché d'Anse. Certains commerçants du centre-ville nous ont fait part de leurs inquiétudes, celles notamment d'une concurrence de nouveaux commerces qui s'implanteraient près du port de plaisance. Difficile de garder un centre-ville dynamique et vivant, encore un effet pervers de ce projet d'un autre temps. En janvier, nous sommes allés au vœu du maire Daniel Pommeret pour, encore une fois, faire entendre une autre voix sur ce projet. Ce méga port de plaisance vous agace autant que nous? Vous voulez agir? La pétition est toujours ouverte sur la plateforme Green Voice. Signez-la et faites-la signer autour de vous. Nous avons dépassé les 4400 signatures. Continuons à faire grimper le compteur. Et pour rester à la page, suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Merci pour ces deux chroniques. Alors avant de clore cette émission, quelques nouvelles du groupe local d'Alternatiba. Ce jeudi 30 janvier, nous vous proposons en partenariat avec Alterninfo le documentaire « La théorie du boxeur ». C'est à 20h15 au cinéma Les 400 coups. Le réalisateur de ce documentaire essaie de comprendre comment les agriculteurs et agricultrices s'adaptent au dérèglement climatique tout en questionnant la résilience alimentaire des territoires. Ce sera suivi d'un débat avec Gérard Boinon, agriculteur militant que nous avions également reçu ici dans cette émission. Encore au cinéma Les 400 coups, cette fois le jeudi 20 février à 20h, une séance de cinéma Alternatiba en lien avec le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Ce sera le Tombeau des Lucioles de Isao Takahata, un des plus grands chefs-d'œuvre des longs métrages d'animation tout pays ou style confondu, avec comme invité des membres du mouvement de la paix. Merci encore chaleureusement à notre invité Patrice Bouvray. Si vous souhaitez approfondir le sujet qu'on a traité aujourd'hui, vous retrouverez les références sur lesquelles nous nous sommes appuyés sur la page de l'émission sur le site de Calade Ma Radio. Et si vous voulez encore approfondir plus, vous pouvez aussi regarder la revue Silence, son numéro 510 de mai 2022 qui s'appelait « Résister à la militarisation ». Il y a également aux éditions Rocher le Défi de la paix de Daisaku Ikeda ou encore aux éditions Flammarion Plus jamais le combat pour la paix des survivants d'Hiroshima. Et puis En relation avec la chronique des Marais, on peut aussi citer directement le discours de la paix de Jaurès, qui est toujours bon à relire. Et bien sûr, vous pouvez aller voir le site internet de l'Observatoire des Armements, l'Observatoire des Armements qui est basé à Lyon, Montéchoulan. Merci à toute l'équipe Radio d'Alternatiba. Ce soir, l'émission a été préparée par Olivier et Pierre. Gaël était à la technique et JC à la virgule musicale et Monique aux chroniques. La prochaine émission sera consacrée à l'action non violente et à la désobéissance civile. Elle sera diffusée le 31 mars.
Alors on change, qu'est-ce qu'on attend ? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade, ma radio.